l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission spéciale Au bout du foot. Hein. On a eu droit à la première mi-temps par Philippe Carnu qui va venir nous rejoindre d'ailleurs. Avec nous du bon monde autour de la table, hein, ça a pas beaucoup changé, il y a Omar qui nous a rejoint en plus. Comment ça va Omar ?
Très bien et toi ?
Ça va, bonne semaine de football ?
Ouais, excellente semaine, hein. Et en plus début du mondial.
Voilà. En plus début du mondial, on arrive encore pour de gros matchs encore. Voilà, ça fait long quand même, non ? On arrive déjà au quatrième jour ? Quatrième jour de Coupe du Monde. Oui. Et on n'a toujours pas vu
l'Angleterre, la France, l'Argentine, le Portugal. Donc ouais, c'est ce que je disais au début des deux heures là. Mais ouais, j'ai du mal à me mettre dedans encore parce qu'on a l'impression que ça tire en longueur.
Ça fait beaucoup de matchs, des matchs de moins bonne qualité avec plus d'écart entre les niveaux. Un peu ça.
Et surtout des matchs qui valent rien. Enfin, on voit là l'Espagne, on dit c'est un exploit de fou. Si ça avait été une poule de 4 avec seulement 2 qui sortent, là ça aurait été chaud parce qu'on se dit l'Espagne, ils ont plus le droit, ils ont grillé leur joker, plus droit à l'erreur. Ouais. Sauf que là on sait que même en gagnant un match sur les 2 qui restent, ils passent quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est même les équipes vont commencer, je pense, dès la deuxième journée ou troisième journée à lever le pied. Une équipe qui a déjà une victoire, un nul, ils vont pouvoir laisser couler et ça c'est quand même rageant pour les suiveurs quoi.
Exactement, c'est quand même rageur pour les suiveurs et pour les autres, en sachant que ça prévoit peut-être de rajouter encore des équipes pour les prochains mondiaux. En tout cas, ça promet. Marius, avec nous, comment ça va Marius ?
Ça va très bien, je suis là pour la deuxième mi-temps, donc ça va très bien.
Ça va, tu t'es hydraté un peu ?
Non, même pas, mais il y a la cooling break là qui va arriver dans 15 minutes.
Exactement, ça va. Et Stéphane avec nous aussi.
Bonsoir.
Comment ça va Stéphane ?
Ça va.
Bonne semaine de football ?
Oui, bonne semaine de football.
T'as apprécié les matchs ?
Ouais, on s'y met lentement mais sûrement dedans, mais ouais, il y a des choses à dire et des belles histoires, ouais, donc c'est plutôt
J'espère
cool.
que t'enchaînes les nuits blanches alors.
Ah bah moi j'ai l'habitude, hein, pour moi qui regarde le tennis toute l'année, regarder l'Open d'Australie ou l'US Open, ça dure 2 à 3 semaines avec des décalages horaires de plus 10 ou 12 heures, voilà, allez-y, mangez la même chose que moi, voilà.
En tout cas, là c'est sûr, bon, moi je suis un peu plus le basket, mais ça s'est terminé,
c'est pareil,
et malheureusement pour Wemby, il n'y aura pas de bague cette année, mais c'est bien, ça le forgera, en tout cas, ça viendra. En tout cas, pour retourner au ballon rond, hein, qui est le football, hein, on a pu voir là récemment l'Espagne tenue en échec face au Cap-Vert, 0-0, est-ce que ça n'est pas le problème de l'Espagne, hein, c'est ce qu'on dit souvent, parce que même cette équipe laisse un peu à désirer quand on voit Gavi, Ferran Torres, Oyarzabal qui joue à la Real Sociedad, qui n'est pas un top joueur avec la Real Sociedad, hein, et pas qui ne joue pas dans un top club non plus, mais avec l'Espagne, il se transforme vraiment. Mais est-ce que c'est pas ça qui leur manque à l'Espagne, un vrai neuf pour tuer ce genre de match ? Parce qu'on voit souvent, quand ils sont sortis aussi en Coupe du Monde face au Maroc, c'était un peu ça, hein. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils n'arrivaient pas à terminer parce qu'ils n'avaient pas ce neuf assez grand, assez physique, assez tueur, hein, Erling Haaland par exemple, Maxence, est-ce que c'est pas ça qui pêche, cette équipe espagnole, sur ce match-là,
il y a quelques occasions ratées par Ferran Torres en première mi-temps, mais je trouve qu'il n'y a pas eu tant d'occasions de ça. Il n'y a pas eu non plus le gardien qui fait des miracles, etc. Là, pour moi, ce qui leur a manqué surtout, c'est les côtés. C'est Lamine Yamal et Nico Williams qui commencent pas le match parce que, normal, ils reviennent de blessures, etc. Et puis, comme on l'a dit, le match, il vaut pas grand-chose, donc il peut se permettre de faire tourner. Mais Oyarzabal, c'est typiquement le joueur qui va bonifier et qui va être bonifié par le collectif. C'est que, au milieu, à la Sociedad, oui, il sort pas du lot, mais entre Yamal et Nico Williams, ça va pile être le bon joueur pour aller faire le pressing, pour se mettre au service. S'il marque pas, c'est pas grave, il va faire briller les autres. Donc moi, je remettrai pas en question ce poste-là. Certes, ils ont pas de neuf imposant, mais pour moi, avec des côtés aussi forts quand ils sont en forme, t'as pas besoin forcément d'un neuf top niveau. Mais pour moi, c'est surtout c'est que on voit que cette équipe, elle est ultra dépendante de l'imagination d'un Lamine Yamal en fait, et d'un Nico Williams qui peut t'apporter sa folie sur le côté. Et dès qu'il y a pas ça, tu te trouves avec que des joueurs du même morphotype. Des Gavi, des Pedri, des Olmo, des mecs qui sont là, qui ont besoin du ballon dans les pieds, qui sont dans le contrôle pass, etc. Et c'est beaucoup plus dur. Donc après, voilà, faut pas tirer trop d'enseignements. Comme on le disait, l'Argentine, ils ont commencé leur mondial 2022 en perdant contre l'Arabie Saoudite. Ils ont gagné le mondial derrière. L'équipe de France, on se rappelle 2018 contre l'Australie, le premier match qui était aussi catastrophique, une victoire au bout du bout. Et derrière, ça gagne le mondial. Donc il y a très peu d'enseignements à tirer, si ce n'est que va falloir que Lamine Yamal et Nico Williams reviennent reviennent vite au top pour cette équipe de l'Espagne sur les matchs couperets.
Bien sûr, c'est ce que je voulais évoquer aussi. Est-ce que Nico Williams pourrait être au top, lui qui a joué très peu de matchs cette saison, hein, qui a enchaîné les blessures? Marius, est-ce que tu penses que Nico Williams sera au rendez-vous et sera à la hauteur des Espagnols
Alors moi j'ai un petit peu de doute sur Nico Williams, hein, parce qu'on sait que c'est un joueur fragile, hein, fragile. Après on sait qu'il aime bien ce genre de compétition, être au top niveau au bon moment. Après, ouais, c'est sûr, comme tu l'as dit, hein, il n'a pas eu de continuité en club. Donc, ouais, ça va être compliqué. Après, on sait que c'est un joueur, quand il rentre sur le terrain, c'est un joueur qui fait la différence. Hein, à chaque fois qu'il a une prise de balle, comme Yamal, hein, c'est vraiment un joueur même beau à voir jouer. Après, moi, c'est vrai que j'ai un petit peu peur sur la suite de cette compétition. À voir les prochains matchs, s'il le fait peut-être jouer une mi-temps, après peut-être commencer titulaire. Pour l'instant, j'ai quelques doutes, ouais, sur Nico Williams.
Merci Marius. Omar, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que Lamine Yamal aussi, hein, de l'autre côté, a été blessé et a loupé quelques semaines de matchs en fin de saison. Et est-ce que c'est pas un retour un peu prématuré aussi pour lui? Est-ce que tu penses que ça peut tenir? Parce qu'on a pu voir, hein, sans Lamine Yamal et sans Nico Williams, c'est très difficile. Ferran Torres, qui va être relégué encore à un second poste parce qu'il n'arrive pas à assurer, il va peut-être jouer le rôle de super sub durant cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que t'en penses,
Oui, après, je pense que tu soulignes un bon point, c'est la fraîcheur physique. Et surtout, que ce que j'ai constaté, les retours que j'ai eus, c'est que les sélections européennes, ils se plaignent beaucoup des conditions physiques. Et c'est possible que ça joue. Et moi, je pense qu'on n'aura pas Lamine Yamal à 100%. Mais bon, connaissant le génie barcelonais, je pense que même à 70% ou à 80%, il peut quand même faire des miracles. Après, de là jusqu'à aller jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais je pense que ce sera au moins suffisant pour passer les poules.
Merci, Omar. Est-ce que tu es du même avis, Stéphane?
Ben, moi, honnêtement, concernant Lamine Yamal, et même, il faut prendre ça de manière générale, je tiens quand même à rappeler le nombre de matchs dans ce mondial qui est hallucinant. Il y a 104 matchs qui vont être joués, 104. C'est vraiment, le nombre est ahurissant et c'est un marathon que de remporter cette Coupe du Monde, alors qu'avant, c'était, chaque match était important, chaque match était un match couperet. Là, on va être dans des domaines de stratégie, préserver les organismes. Est-ce qu'on va faire nul contre cette équipe? Est-ce qu'on doit tout donner pour gagner contre cette équipe? Là, on peut se permettre de perdre. Voilà, on est plus dans une logique de marathon. Et ça, je pense que ça peut, à terme, desservir l'Espagne, sachant que Lamine Yamal, il est revenu, il est un peu à court de match, puisqu'il est revenu de blessure. Nico Williams, pareil, il est à court de match, il va manquer de rythme, je pense, il sera beaucoup moins influent dans le jeu que lors de l'Euro 2024. Donc, c'est plutôt ça, moi, qui m'inquiète de manière générale. Après, vis-à-vis des faiblesses de l'Espagne, bon, bah, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de neuf dans cette équipe. Alvaro Morata, il ne sera pas là jusqu'à ses 50 ans. Et à un moment donné, il va falloir penser à former un vrai neuf en Espagne. Parce que bon, tous les profils sont les mêmes. Le côté faux neuf, ça forme des ailiers, ça forme des milieux de terrain très élégants, balle au pied. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il manque un vrai finisseur.
Après, ils ont souvent gagné sans vrai neuf. Hein.
Oui, ils ont souvent gagné sans vrai neuf. Mais là,
c'est
là,
aussi leur méthode.
Là, pour le coup, je pense que ça risque de les desservir. Là, faut voir quand même à quel point ils ont galéré contre le Cap-Vert. Faut pas prendre non plus ce match pour une référence, mais voilà.
Ça va donner des idées aux adversaires.
Donner des idées aux adversaires.
Oui, de toute façon, les idées, ils les avaient déjà. Hein. C'est contre l'Espagne, tu restes derrière, t'attends qu'ils se fassent des passes latérales et tu es le plus solide possible. Si t'as 2-3 joueurs qui vont vite devant, tu en profites pour les contres.
Après, pas tous. Et... Hein. Moi, franchement, quand j'ai vu un Allemagne-Espagne, le dernier Allemagne-Espagne, Allemagne même, on peut dire, ils se font voler durant le match.
Ah,
en
quart de finale.
Du coup, tu vois, pourtant, on voit l'Allemagne d'aujourd'hui, on se dit, même si ça gagne 7-1 contre le Curaçao, en 8e, ça peut tomber contre le Japon et ça sort. Tu vois.
Après, j'ai du mal à faire des plans sur la comète sur une compétition qui va durer un mois et demi, en fait.
Oui,
savoir l'état dans lequel ils seront en demi-finale dans plus d'un mois, là, je sais pas, je peux pas vous dire.
Non, mais c'est peut-être que. En demi-finale, en fait, on veut juste savoir.
Mais peut-être que.
Tu penses qu'ils vont y arriver déjà en demi-finale?
Moi, je pense que... Mais en fait, la question, c'est tout dépend de l'état de santé, en fait. C'est que
ça.
Si Lamine Yamal, il démarre le prochain match, il se pète la cuisse, je te dis, c'est terminé, on arrête tout.
Par contre, s'il
commence à reprendre du rythme match après match et que vers les 16e, il revient et il commence à être bien à son rythme, bah là, ils vont être durs à arrêter pour moi. Mais tout dépend... En fait, on n'est pas dans les petits secrets. Et de toute façon, s'il a des douleurs, on le saura pas parce qu'ils feront tout pour le cacher jusqu'à la dernière minute, ce qui est normal. Mais pour moi... C'est une des seules sélections qui est dans ce cas-là, pour moi, où ils sont vraiment dépendants quasiment d'un seul homme. Et si lui n'est pas là, demain, ça change totalement la vision que j'ai sur l'Espagne.
C'est exactement moi ce que j'allais dire hein, pour Yamal. Hein, pour moi, il est indispensable hein, à cette équipe d'Espagne. Comparé justement à Nico Williams, où ils peuvent s'en sortir de ce côté-là. Par contre, Yamal, bah, c'est vrai que bah, de toute façon, on le sait, hein, c'est dur de se passer de ce joueur-là. Hein, c'est lui qui fait les différences. Hein, c'est lui qui donne les caviars à ses attaquants pour marquer. Même lui, il marque. Donc non, c'est, si Yamal n'est pas à 100% et ne peut pas continuer dans cette Coupe du Monde, ça va être très compliqué pour l'Espagne. J'ai un peu peur à ce niveau-là, ouais.
Merci Marius. Hein. En tout cas, on va suivre l'Espagne de très près. Hein, eux qui vont jouer face à l'Arabie Saoudite le 21 juin prochain. On va suivre ça de très près. Et le Cap-Vert, eux qui affronteront tout simplement l'Uruguay. Voilà, c'est un match qui va jouer aussi entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite cette nuit. C'est bien
ouais,
ça.
C'est ça.
Cette nuit. Vous voyez des favoris ? Est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite peuvent récidiver en commençant bien la Coupe du Monde avec une victoire ?
Ah, c'est un match qui est quand même vachement ouvert. Hein.
En sachant, excuse-moi, je rajoute juste un petit truc, en sachant que l'Uruguay sont arrivés la veille.
Hein. Oui, voilà,
parce
c'est ça.
Parce qu'il y a eu un changement des documents administratifs qui n'étaient pas prêts, ce qui fait que ça peut entraîner de la fatigue. En
ah bah
plus.
Bien sûr, bien voilà. sûr, c'est justement coup, ça pour ça. C'est justement pour cette raison que je dis que ça peut être un match très ouvert. Après, le truc c'est que ça va être un match ouvert, mais ce ne sera pas uniquement sur le plan sportif. C'est-à-dire que là, on a une équipe qui possiblement va être très troublée, qui va mettre du temps à rentrer dans son match, qui va faire des erreurs, qui sera un peu fatiguée face à une autre équipe qui, elle, bon bah à aucun moment on met l'Argentine, l'Arabie Saoudite favorite face à l'Uruguay, mais vu les circonstances, bah il y a peut-être des chances pour qu'il marque un ou deux buts. Hein. Puis pour rappeler, comme on l'a dit plus tôt, l'Arabie Saoudite a quand même réussi à battre l'Argentine à la précédente Coupe du Monde 2-1.
Ils ont des bons joueurs.
Ils ont
quand
des
même,
bons joueurs quand on les voit jouer. Ça progresse aussi avec
le championnat.
Le championnat, la Saudi League. Ouais. Ça progresse lentement mais sûrement aussi sur le plan domestique. Donc oui, ça va être un match très ouvert. Encore plus que ce qu'on le pensait. Franchement, je vois pas qui pourrait l'emporter. J'ai pas de certitude, moi, en ce qui me concerne.
Merci. Vous avez parlé un peu des matchs. Avant, on va juste revenir sur quelques matchs, peut-être. La Tunisie, hein, qui se sont fait étrier par la Suède, hein, 5-1. 10 buts encaissés en 2 matchs pour la Mouchi. On avait déjà peur, hein, on avait cette crainte que les Aigles de Carthage se font tout simplement déplumer. Et là, c'est bien arrivé. En tout cas, cette nuit, c'était... voilà. Et franchement, même en regardant le match, le score aurait pu être beaucoup plus lourd.
Oui, après, moi, ce qui m'attriste, c'est vraiment le match où il fallait vraiment pas perdre. C'est vraiment plus ce match-là. Parce que moi, personnellement, je les vois pas prendre 2 points contre le Japon. Hein, même si, voilà, ils ont contre le Japon.
Ni contre les Pays-Bas. Mais actuellement, à part Curaçao, il n'y a pas grand monde qui prenne des points en Coupe du Monde, là, ouais. Ce que j'ai vu hier. Hein.
Oui, bah, sur la Tunisie, peut-être aussi. Qui va
encore, ouais.
Ils prennent 7-1, mais ils proposent du jeu.
Ouais, ils proposent du jeu et ils ont égalisé face à l'Allemagne. C'est pas rien. Comme perf.
Oui, Omar.
Et oui, non, du coup, bah, la Mouchi qui a jamais trouvé la formule, qui a tâtonné, qui a. Voilà, en fait, c'est dans la lignée en fait, des matchs amicaux qu'il nous a proposé. Il n'a jamais trouvé la formule, il n'a jamais trouvé l'équipe type. Et de toute façon, je pense que les joueurs l'avaient lâché depuis longtemps. Donc.
L'ont lâché avant qu'il arrive même.
Ouais, parce qu'il est parié depuis longtemps pour le coup.
Ah oui, il a ses 2 matchs, 10 buts encaissés. Ouais. Il arrive dans un bourbier, Sabri Lamouchi. En plus, il a pas de vestiaire avec lui, donc.
En plus.
À aucun moment, ça devait marcher.
Et là, la fédération le lâche. Bah, ils étaient déjà contre. Il y en a déjà pas mal qui étaient contre cette arrivée-là hein, de Lamouchi. On rappelle ses propos. On l'avait rappelé déjà avant la Coupe du Monde, hein, dès qu'il a pris la sélection tunisienne. On avait rappelé ses propos où il ne se sentait pas tunisien et il ne se sentait pas pour venir jouer pour eux, etc.
Ah oui.
Oui, il l'a dit clairement. Et du coup là c'est pour ça que
il s'est tiré une balle dans le pied avant même de prendre le poste quoi.
Non mais ça faisait longtemps qu'il avait fait ses déclarations.
D'accord.
Il avait fait ses déclarations en tant que joueur, il a dit je n'ai rien à voir avec la Tunisie.
Ah, oui, c'était pour être sélectionné à l'équipe de France, il disait en gros moi je suis français, je suis pas tunisien.
Moi je suis français, je suis pas tunisien, c'est mes parents qui sont tunisiens, c'est l'origine de mes parents, etc. C'est ce qu'il avait dit.
Ah, et, voilà. Et de là à quelques années plus tard, s'occuper de la Tunisie.
C'est plus
après pour le coup, enfin Tourelle il est pas anglais, tu vois, mais bon, ça peut être ok d'avoir un sélectionneur qui se sent pas de la nationalité du pays.
Bien sûr,
c'est assumé.
Oui, ça,
après,
il y a
un
souci là-dessus. Mais c'est plus
c'est
la façon
de le dire, en fait, non ?
En fait, c'est plus ses déclarations.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et en plus de ça, c'est en dehors de ses déclarations, c'est... Il y a ses déclarations, mais si t'es un bon joueur, si t'es un bon entraîneur encore, on peut passer outre. Mais là, je vois même pas pourquoi tu passerais où? T'aurais pris Kadri, je pense, ça aurait pas pu être pire.
Après, pour le coup, c'est pas pour le défendre, parce que c'est pas un coach que j'apprécie particulièrement, mais je pense que au niveau de la fédération, ce qui se passe en Tunisie, c'est une catastrophe.
Oui,
c'est-à-dire que il se dit que c'est même pas lui qui a fait la liste, et qu'en fait, on lui a envoyé la liste pour que ce soit celle-là qui décide à peine des compos. Que cette équipe, on voit que la formation tunisienne, elle est catastrophique. Il y a aucun joueur qui sort de nulle part, que ce soit les binationaux, les locaux. Il y a rien. Il se passe que dalle. On voit la gestion de la fédération, elle est quand même cata. Là, il y a une CAN qui se passe. Bon, certes, ils font un huitième. C'est pas fou, c'est pas cata, mais t'es quand même à 4-5 mois de la Coupe du Monde et tu décides de tout changer. Tu parles à Franck Hez, il te dit non, tu ramènes la mouchi. Enfin, et au bout de là, tu le vires en pleine Coupe du Monde, tu t'affiches quand même là, un peu là.
C'est
quand même.
C'est la honte.
C'est quand même très compliqué. Là, tu joues l'image
d'un
pays.
C'était ça même, tu le sortais avant la Coupe du Monde.
Bien sûr.
Dès qu'il prend les 5-0,
si tu le sens
okay.
pas et tu changes voilà. tout. Ah, oui. Ou alors, tu le prends même pas dès le début. Enfin, ouais. je sais rien. Mais
non,
là,
tu le prends pas dès le début, mais dès qu'il prend 5-0 et qu'il dit c'est une honte. Parce que même déjà, sa déclaration est un peu lunaire quand il sort de ça. C'est un match amical, ok, mais comment lui l'arrive, tu vois. Il essaie même pas
de dire c'est pas grave, c'est une prépa,
voilà,
machin.
J'ai testé des nouveaux trucs, ça n'a pas marché. Je sais
le rendez-vous, faire, c'est la semaine prochaine.
Voilà,
et puis voilà,
ouais,
bien sûr.
Rassurer un peu, non. Il est arrivé, c'est la honte, je sais même pas où me mettre, etc.
Ouais.
Donc, il est arrivé déjà dans un cadre où.
Posture de victime dès le début.
Exactement. Donc,
et puis là, l'idée de remplacer par Kadri, je suis désolé, Kadri, il a jamais mis les fesses sur un banc de sa vie, en fait. Il sait pas, comme vous et moi, en fait, il a jamais coaché un match en pro. Donc, certes, il en a joué plus que nous, mais c'est tout. Et il y a encore 2 ans, il était coach. Donc, tous ces mecs-là, il a joué avec eux. Pour moi, la posture, elle est pas bonne. Et en plus, c'est 2 matchs bourbiers parce que c'est Pays-Bas et Japon. Ça va être, ça va être une catastrophe.
Donc, en fait, là, c'était même mieux de le laisser et après tu.
Pour moi, oui. De toute façon,
Bien sûr. C'est valait mieux le laisser, même si c'est pour prendre par la suite 4 contre les Pays-Bas et 6 contre le Japon ou l'inverse.
Même au niveau de l'image, parce que là, tu passes pour des clowns en fait.
Oui, c'est ça. C'est la honte à l'international en fait. Que tu aies des mauvais résultats avant et que tu te foires lors de la compétition officielle, ça arrive à toutes les équipes. Mais là, de cette manière-là, agir encore une fois sur l'émotionnel, c'était déjà le cas après l'élimination contre le Mali à la CAN, où vraiment, c'était de l'émotionnel à outrance au détriment du sportif. Pour décrire la situation de l'équipe tunisienne, là on en est encore en plein dedans, parce que là qu'est-ce qu'il va apporter Kadri en 2 matchs?
Non mais
rien du tout.
Et puis déjà on sait même pas si c'est un coach le mec.
Mais oui, c'est
ça. Il est juste c'est comme si demain c'était Giroud entraîneur d'équipe de France, parce que il était là il y a 2 ans, mais en fait ça n'a pas de rapport, enfin
ça n'a aucun sens.
Encore, Giroud, c'est le meilleur buteur de l'équipe.
Encore, et encore.
Après, on peut dire ça, mais Thierry Henry, c'était le meilleur buteur pendant longtemps de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas un grand coach pour autant, quoi. Donc, même là, c'est ça.
Non, du tout, mais après, il avait un peu plus d'expérience quand même.
Voilà. Mais bon.
Oui, puis il a eu le mérite de commencer. Il a fait Monaco, il a fait les espoirs, machin. Tu commences pas direct par une sélection A, ça n'a
aucun
sens.
Voilà, c'est ça, tu commences pas par les A, en fait.
Après, la Mouchi, je crois qu'il avait entraîné en Côte d'Ivoire, si je dis pas.
Non, je parle de Kadri.
Ah, de Kadri, oui.
Kadri, il a rien entraîné, même des U19, des U17, ce qu'il veut.
Il a
entraîné la Côte d'Ivoire, mais c'était quoi le bilan avec la Côte d'Ivoire?
Ah, non, c'est catastrophique.
Il sort en poule alors qu'il a une équipe de tueurs à gages. Yaya Touré, Kolo Touré, Drogba, machin, et il sort en poule.
C'est ce que je suis en train de dire avant.
Il avait l'équipe pour faire quart de finale minimum, et il sort en poule en étant ridicule. Donc,
il doit aller en demi, voire finale. Pas moins. C'est l'une des meilleures équipes africaines à ce moment-là.
C'est encore plus.
Ah non, je parlais de la Coupe du Monde, moi.
Ah,
mais en Coupe du Monde, en tout cas, il doit faire 8e quart avec cette équipe-là, tranquille.
Bien sûr. C'est encore plus inexplicable que de voir encore Sabri Lamouchi être cité parmi des noms de coach, quoi.
En tout cas, ça s'arrange pas pour la Tunisie. Hein, et franchement, vivement que ça se termine, je pense, pour eux. En tout cas, en vue de la frustration de tous les Tunisiens.
Et c'est malheureux quand on voit des équipes comme le Nigeria, par exemple, qui sont pas à la Coupe du Monde, alors que c'est quand même une meilleure équipe de football que la Tunisie. On se dit, c'est rageant parce que le Nigeria, dans un groupe comme ça, ils auraient pu être le poil à gratter. Ce qu'on a vu à la CAN, physiquement, c'était impactant. Ils ont des joueurs de top niveau, Lookman, Osimhen, comment il s'appelle,
Basset,
etc. Et là, on voit la Tunisie à la place, c'est rageant.
En tout cas, c'est sûr, mais bon, fallait mériter.
C'est sûr, c'est sûr. Fallait qu'il soit au rendez-vous.
Voilà, on est obligé d'en parler. Belgique face à l'Égypte. Là, en tout cas, ça va se jouer. Hein, les compos qui sont tombés, hein, Decatéler en pointe, De Bruyne en 10, Doku à droite, Trossard à gauche, Onana et Tillmans dans le milieu, Meunier, Ngoy, Michel et Castagne dans la défense et Courtois au goal. Et côté Égypte, hein, Salah qui joue sa dernière Coupe du Monde, hein, Salah qui joue à droite, Achour en 10, Zico à gauche, Marmouche en pointe, Atia au milieu de terrain avec la Chine. Ouais. Ouais, avec la Chine, c'est bien ça, la Chine. Annie, Ibrahim, Fatih et Fatou dans la défense et Chobéir dans les buts. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là, hein? Lukaku qui a été sélectionné, lui qui a même pas joué un seul match complet cette saison, pour vous c'est mérité?
Non.
Non, après, non. C'est des.
Mais il est pas là pour être titulaire. C'est ça. C'est ça. C'est un peu comme Neymar avec le Brésil. C'est, voilà. Il est là pour vraiment renforcer le
Après, lui, il est apte. Il a joué en prépa, il a marqué.
Oui, voilà.
Et ouais. Je pense que c'est Rudy Garcia, il aime bien aussi ces histoires d'hommes derrière tout ça. Et ouais, il a souvent géré comme ça. Ouais, avec un mec où ça se trouve, il l'a eu au téléphone toutes les semaines dans l'année en disant ça va, t'inquiète. Te presse pas, l'important c'est le mondial, tu seras là. Il joue beaucoup à la confiance sur ce côté-là. Ah, oui. Et pour moi, ça peut être une manière d'y arriver. Après, de toute façon, l'objectif de la Belgique, c'est pas d'aller la gagner pour moi. Ils ont pas l'équipe pour, ils ont pas l'effectif pour. Mais et Lukaku, il représente quand même quelque chose de solide en Belgique. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Ouais. C'est un des derniers survivants de la grande époque belge avec De Bruyne, avec Courtois. C'est un des derniers, derniers Mohicans. Ouais. Donc, moi, je peux comprendre. Hein. Tu vois, si c'est pour être le 22 ou 23e, entre un Openda qui va peut-être te faire la gueule et qui n'est pas forcément meilleur sur cette saison-là, ou un Lukaku qui va pouvoir rentrer avec son aura, avec son expérience de ces matchs-là, dans le groupe. Voilà, moi, je me précipiterai pas pour dire que c'est une mauvaise décision.
Ah non, mais clairement, c'est pas mérité si on se focalise uniquement sur le plan sportif, plan méritoire. Ouais. Mais pour autant, on peut pas se passer, quand on est une nation comme la Belgique et quand on connaît l'apport qu'a eu Romelu Lukaku dans la sélection, on peut pas se passer de lui à l'heure actuelle. Il peut toujours mettre un pion, en fait. En sortie de banc, il peut toujours mettre un ou deux pions. Il peut toujours donner aussi cette énergie supplémentaire pour aller haranguer ses coéquipiers, aller chercher le point du nul, aller chercher le but de la victoire, etc.
Et donner de la confiance aux plus jeunes, etc. Parce que c'est dur à gérer une Coupe du Monde. C'est Mbappé qui l'expliquait dans Le Parisien, je crois, en disant que c'est fou de se dire qu'il y a le monde entier qui s'arrête pour te regarder jouer. Et c'est dur à assimiler pour un être humain, en fait, de se dire ça. Donc, Lukaku, qui a connu toutes ces sphères-là, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro, machin, il peut apporter à tous ces petits jeunes, les De Ketelaere, les Doku, qui potentiellement peuvent être pris un peu par la pression.
Tout à fait. Donc, à voir.
Ouais, moi, je trouve que c'est une équipe assez sympathique.
Ouais, bien sûr.
Ça a du flow, je trouve. Ouais, ça a du flow, moi, je trouve.
Après, c'est derrière, je me dis attention. Derrière, pour aller très loin, Meunier, Ngoy, il est top à Lille, de là à tenir une défense au mondial, voilà. Les latéraux, c'est quoi? Ouais, Mechele, et Meunier, et de l'autre côté, c'est qui le latéral gauche? Castagne. Ah, c'est vieillissant quand même tout ça là.
On est en fin de cycle.
Ouais, voilà.
Fin de cycle, fin de contrat, fin de carrière, fin de tout.
Je pense que c'est Last Dance pour cette génération.
Il reste encore Courtois dans la cage. Donc
est-ce qu'il va poursuivre lui-même, hein? On sait qu'à un moment il avait eu un petit problème avec le coach, il voulait plus venir en sélection, etc.
Ouais, mais c'est du passé.
On a vu, est-ce qu'il va vouloir rester aussi jouer jusqu'à 40, 42 ans là-bas?
Ça c'est
la question. Ouais.
Est-ce que c'est sa dernière? Je sais pas, mais
C'est à voir. Après, le truc, c'est que Courtois, ce qui est hallucinant, c'est comme Neuer, même à 40 piges, à l'approchant 40 piges, le mec est toujours performant. Et ça, pour le coup, ça peut aider à considérer encore aujourd'hui la Belgique comme étant une équipe outsider, une équipe qui peut jouer les troubles faites de loin. Donc,
bien sûr.
Donc, à voir pour la suite. Mais ça, honnêtement, on n'en sait pas plus que ça. C'est lui qui sait.
En tout cas, on espère que, parce que il a eu quand même quelques petits déboires avec l'équipe de Belgique. Hein. Il a loupé quand même des grosses occasions pour des qualifications, pour des euros, des matchs importants. Lukaku, qui a été beaucoup chahuté par rapport à tout ça. Mais on espère pour lui qu'il va revenir au devant de la scène parce que c'est un attaquant top. Mmh. Quels sont vos favoris là pour ce match Belgique-Égypte? Est-ce que l'Égypte ont moyen de faire un coup ou non?
Oui, la Belgique. Pour moi, la Belgique. Oui.
Ouais, pour moi, l'Égypte. C'est trop stéréotypé dans le plan de jeu. En fait, ils n'ont pas de solution. Encore, si tu m'avais dit c'était le Salah il y a 4-5 ans qui peut changer un match à lui tout seul, pourquoi pas. Mais là, il a même plus les jambes. Donc en fait, ça me paraît très compliqué. Éventuellement, un match nul un peu à la Capverdienne, un 0-0 si jamais, avec un gardien en feu et puis un Doku qui est un peu brouillon devant, pourquoi pas. Mais sinon, pour moi, Belgique ultra favori et je vois la Belgique gagner assez largement.
Ouais, moi aussi, pareil, je mettrais une pièce sur la Belgique.
Vous, pour vous, non.
Non, je...
Et puis l'Égypte, historiquement, en Coupe du Monde, c'est assez catastrophique. Donc,
ouais, c'est ça. C'est surtout à la CAN que l'Égypte sait se révéler être une équipe très dangereuse à jouer, un véritable trouble-fête, voire aller au bout de la compète. En Coupe du Monde, c'est loin d'être le cas. Loin d'être le cas. Donc, non, clairement, la Belgique, Belgique favorite. Moi, j'attends une victoire de la Belgique ce soir. Alors, peut-être pas une large victoire, comme dit sur le plateau, mais j'attends une victoire, une bonne victoire de la Belgique, ouais.
Omar, toi aussi, hein, c'est ça?
Oui, après, pour moi, je les mets un peu en dessous des Pays-Bas, mais dans le même état d'esprit que les Pays-Bas, c'est-à-dire une bonne équipe sympa. Je pense qu'ils vont faire un bon parcours et je les vois largement battre l'Égypte. Pour moi, l'Égypte, c'est assez faible. Hein.
Ok, merci messieurs. On va se faire une petite pause, hein. Après on va revenir avec les prochains matchs. On va parler des matchs qui vont arriver, hein, la France face au Sénégal. Hein. Là on arrive un peu plus proche, on sait les joueurs qui sont un peu plus en forme. Konaté qui a annoncé à la place de Saliba, peut-être en tant que titulaire. Désiré Doué qui a pris le devant lui sur l'attaque, hein, qui a pris le dessus un peu sur Barcola, etc. Du coup, on va en parler, on y revient juste après.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, hein, il est 20h33 si vous venez de nous rejoindre. Nous avons parlé un peu de tout ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Hein. Là, on va parler de l'équipe de France qui va jouer face au Sénégal, hein, demain. Nous allons couvrir le match, hein, commenter avec un avant-après-match, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous. Hein, et si vous avez des idées à nous proposer, de ce qu'on pourrait parler comme sujet que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à envoyer des messages sur le Instagram de Mon Paris FM. Voilà. Messieurs, on se rapproche, ça se rapproche pour les Bleus. Voilà, le grand jour y est, c'est demain. Hein. Faut faire forte impression après les matchs de préparation et en plus face au Sénégal qui auront à cœur de récidiver eux une victoire face aux Bleus, hein, historique en Coupe du Monde. Les Bleus savent ce qu'ils ont à faire. Comment vous le sentez, Marius ?
Ah bah moi en vrai j'ai un petit peu peur franchement après les matchs de préparation justement la défaite contre la Côte d'Ivoire bon après c'est sûr que Deschamps a essayé quelques petites choses hein, mais moi le Sénégal champion d'Afrique je dis bien mais c'est pas une équipe du tout à sous-estimer pour moi c'est les deuxièmes hein, derrière la France dans ce groupe hein, même devant la Norvège. Mané qui va avoir le cœur hein, d'essayer de les porter le maximum possible dans la compétition. Après la France, on a encore des doutes sur le 11. On va en parler, mais est-ce que Doué est titulaire ? Comment Deschamps va réussir à gérer cette attaque hein, parce que on sait que il y a beaucoup d'attaquants, les défenseurs, c'est un peu compliqué. Donc normalement, la France devrait s'imposer. Maintenant, attention parce que le Sénégal. Peut aller chercher une victoire. Donc ça, c'est compliqué.
Merci Marius. Sur l'attaque, est-ce que Maxence, tu penses que c'est les bons choix de mettre Dembélé à droite, Michael Olise en 10 non, ou c'était Dembélé en...
C'était Dembélé en 10.
Dembélé en 10, Michael Olise à droite, Mbappé en pointe et à gauche Désiré Doué. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure attaque qu'on aurait pu former?
Non, parce que déjà, pour plusieurs raisons. Pour moi, déjà, une attaque à 4, c'est pas possible d'aller au bout du mondial avec ça. Parce que le jour où tu vas jouer des gros milieux de terrain, tu vois, j'ai le Portugal, tu vas jouer l'Espagne, tu peux pas laisser que 2 mecs. Déjà, c'est pas les meilleurs du monde, tu vois, Mini Rabiot, mais aussi fort soit-il, même si t'as les meilleurs du monde, tu mets 2 face à 3, c'est pas possible. Ils vont être entre Fabian Ruiz, Rodri, Pedri, ou João Neves, Vitinha, et plus 1, et c'est pas possible, en fait. Enfin, pour moi, c'est... Au niveau de l'équilibre, c'est pas possible. À la limite, si on veut vraiment faire jouer Désiré Doué, j'aurais reculé Désiré Doué dans le milieu et faire un milieu à 3 avec Désiré Doué qui va se projeter un petit peu. Et sinon, pour aller plus précisément dans l'attaque, pour moi, c'est pas normal. Tu fais jouer Dembélé qui fait 2 saisons exceptionnelles, qui est pas à son poste. En numéro 10, pour moi, il a pas les qualités pour jouer numéro 10. Sa première touche, elle est pas bonne. Son orientation de corps, elle est pas bonne. Dans les petits périmètres, c'est pas le meilleur. Lui, il a besoin d'espace. C'est un joueur d'espace. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt de le mettre en 10. Dembélé doit jouer 9 et moi mon choix ça aurait été de mettre Mbappé côté gauche, de lui dire écoute t'as 8 matchs à me faire là ou 7 matchs à me faire, fais un effort, défends sur ton latéral, on va te donner les ballons, tu vas avoir les pénaux, t'inquiète pas, t'es le boss. Mais comme en 2022, tu joues de ce côté-là, Dembélé en 9 à son poste, en fait, qui va pouvoir lancer les pressings, et Olise à droite à son poste, ça me paraît assez simple. Après, il y a des statuts que je gère, des histoires de statuts, d'ego, que je ne gère pas en n'étant pas dans le groupe. Mais pour moi, en allant avec Dembélé en 10, on va droit dans le mur. Parce que Mbappé, il adore décrocher, donc ils se retrouvent les deux dans la même zone. Ça donne un espèce de gloubi-boulga footballistique que j'aime pas du tout. Tu t'en sortiras sur beaucoup de matchs avec le talent individuel parce qu'il suffit qu'un Olise allume la lumière, un Dembélé une fois, un Mbappé une fois, il y en a bien un de chaque à chaque fois qui sera au top. Mais pour moi, en demi ou en quart, tu vas tomber sur un os en jouant à 4 comme ça.
Merci monsieur. Est-ce que Didier Deschamps, tout simplement, ne fait pas les bons choix et a peur de faire les bons choix, tout simplement en voulant mettre un peu tout le monde, parce que Ousmane Dembélé, demain, tu peux pas le mettre sur le banc, ouais, en vue de la prestation qu'il fait. Ouais. Mais est-ce que ça le sert qu'il le mette dans un autre registre que son poste actuel au Paris Saint-Germain, non, en tant qu'attaquant pointe? Ah, vaut mieux même qu'il rentre les 20 dernières minutes ou 30 dernières minutes en pointe, qu'il soit efficace, qu'il joue 10 comme ça.
Mais bien
parce
sûr.
Que pour moi, le joueur qui serait formidable à ce poste-là, c'est Cherki.
Bien sûr.
Ah oui,
donc,
bien sûr.
Il devrait y être. Donc Stéphane, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu penses que Didier Deschamps devrait changer ça?
On peut demander à Deschamps de changer pas mal de choses, mais là, à l'heure actuelle, on sait à quel point il est buté sur ses choix. Mmh. Il veut rester avec une attaque. C'est vrai qu'on a une attaque monstrueuse, certes, mais on peut pas tous les faire jouer, c'est pas possible. Et le fait de repenser le milieu, de repenser l'animation au milieu, de remettre les joueurs à leur poste, ça peut apporter énormément de choses. Maxence, tu l'as bien dit, le fait de faire basculer Mbappé à droite, de mettre Dembélé en neuf, parce qu'il c'est en neuf qu'il a eu son ballon d'or quand même. C'est pas en étant numéro 10, loin de là. Remettre Olise à droite, même au milieu de terrain, c'est bien d'avoir Tchouaméni Rabiot, mais moi je suis désolé, Warren Zaïre-Emery, à un moment donné, faut le mettre sur le terrain, cet homme-là. Faut vraiment le mettre sur le terrain. La saison qu'il fait au PSG, c'est le
joueur. Après, le poème, il sera le même. Hein. S'il joue à deux en double pivot, ouais, ça marchera pas mieux. En fait, pour moi, il en faut trois au milieu.
Bien sûr qu'il en faut trois. Mais le problème, c'est que les profils qui sont sur le terrain ne sont pas assez. Ne sont pas assez forts et ne s'impliquent pas assez précisément sur le plan offensif. Tchouaméni Rabiot, c'est bien mignon, c'est là depuis 2018, certes, mais à un moment donné, il va falloir penser à mettre de l'impact physique, déjà pour commencer, parce que comme tu dis, 2 contre 3, à un moment donné, on peut faire ce qu'on veut, mais ça passera pas. Et surtout, il faut de la cohérence. Là, il n'y a aucune cohérence dans le schéma tactique de Deschamps sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs. C'est bien beau de dire, on a l'actuel ballon d'or, on a le meilleur joueur du monde, on a le golden boy, on a le meilleur passeur d'Europe. Ouais, ok, d'accord, super, c'est beau sur un CV. Mais à un moment donné, faut que ça.
Et on sait, cette équipe-là, ça marche jamais. Et la France en est le pavillon témoin, parce que 2002, t'as les meilleurs buteurs de toutes les ligues, t'as la Ligue 1, Djibril Cissé, t'as Thierry Henry, t'as Trezeguet. Et en fait, tu gagnes rien, ça joue pas. Et en fait, les meilleures sélections, mais 98 par exemple, c'est une équipe où tu as fait des choix. T'as dit, ce sera l'équipe de Zidane et ce sera l'équipe de Petit Deschamps. Et donc, Cantona, au revoir. Papin, au revoir. Ce sera sans vous. Et ben en fait, pour moi, je vais aller loin, mais pour moi, Deschamps, il aurait dû dire, c'est l'équipe de qui aujourd'hui? C'est l'équipe de Mbappé? Alors c'est l'équipe de Mbappé. Et Dembélé, il est sur le banc. Voilà. C'est l'équipe de Dembélé? C'est l'équipe de Dembélé. Et on fait tout pour que Dembélé soit dans les meilleures conditions. Et après, c'est le résultat qui, ça se trouve, là, il va gagner comme ça. Et donc, on passera pour des cons. Et c'est pas grave. Mais pour moi, j'espère. Tu peux pas gagner.
Même si ça gagne, on sait comment ça gagnera.
Voilà.
Mais
pour moi, tu peux pas gagner en ménageant tout le monde. Après, peut-être que médiatiquement, ça aurait été invivable. Parce que si tu dis demain, c'est l'équipe de Dembélé, Mbappé est sur le banc, ou c'est l'équipe de Mbappé, Dembélé est sur le banc. Mais pour moi, footballistiquement, c'est ce qui aurait le plus de sens, en fait.
Mais bien sûr, en fait, c'est ce que tout le monde attend, en fait. C'est qu'on parle enfin de football. Parce que là, on a l'impression qu'on gère des égos. Je me souviens d'une citation de Thomas Tuchel quand il était entraîneur du PSG. Il disait, moi, je suis pas qu'entraîneur du PSG. Je suis entraîneur, je suis joueur, je suis coach, je suis agent diplomatique, je suis nounou, je suis ministre de la culture, ministre de la Défense. À un moment, stop. Moi, j'aimerais bien faire mon métier. Là, c'est pareil. C'est exactement la même chose qu'on reproche à Deschamps.
Et c'est encore pire parce que là, c'est du 24-24. Mecs, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble le matin, ils dînent ensemble, ils veillent ensemble le soir en jouant à la play. Ouais. Donc, en fait, c'est encore plus invivable. Et moi, pour moi, ce qui pourrait arriver de pire à l'équipe de France demain, c'est terrible à dire.
C'est un bouillon.
Non, c'est une grosse victoire. C'est demain, tu gagnes 3-0 parce que t'as Olise qui est sur une autre planète, Mbappé qui est en forme. Hein, et du coup, tu restes là-dessus et tu te dis, bah, c'est la solution, on va aller comme ça au bout. Pour moi, demain, un peu comme ce qui s'était passé contre l'Australie en 2018, si demain tu te plantes, tu fais une mauvaise prestation, c'est là que Deschamps, il avait revu tous ses plans. Il était parti avec Dembélé côté, il l'avait enlevé, il avait monté Matuidi, etc. Demain, si tu foires ton match, tu perds 2-1 ou tu fais un nul un peu difficile, il va dire, attendez les gars, maintenant on va faire un massos. Il va remettre ses 3 minutes de terrain et demain, t'auras Mbappé, il va lui dire ça, t'as bien vu là, t'as joué en 9, c'est pourri, remets-toi à côté, Dembélé, Olise, et puis on y va comme ça, et tu fais rentrer Doué, Cherki, etc. à la 60e.
Il n'y a que comme ça que ça peut marcher parce que en fait ça manque de cohésion. C'est comme quand tu joues sur FIFA. À un moment donné, si tu joues en 4-2-4 attaque de folie, ouais, tu vas marquer des buts, mais tu vas marquer des buts en t'en prenant 75 derrière. Oui. Ça n'a pas de sens.
Et contre l'Irak, ça va aller, c'est top, c'est génial.
C'est ça.
Mais quand tu vas commencer à jouer à l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, mais
ça passera jamais.
Mais bien sûr. Et on l'a vu à la Ligue des Nations. Quand t'as joué l'Espagne, t'as pris le bouillon parce que t'avais voulu mettre tout le monde devant et les milieux, j'ai pas envie de leur taper dessus. Tu vois, Meni Rabiot, je suis pas fan, mais
tellement léger.
Mais tu peux mettre qui tu veux dans ce format-là, c'est impossible. Ils vont prendre des vagues. Ils vont prendre des vagues avec les latéraux qui sont pas suivis, les milieux, les trois milieux. Donc en fait, ils doivent défendre toute la largeur à deux, ce qui est déjà très difficile. Ouais. Et t'as en face cinq mecs sur la largeur. Donc tu peux mettre qui tu veux. Tu peux Edgar Davids et on fait revenir Didier Deschamps. Ça marchera pas.
Ça marchera pas. C'est pas possible. C'est pas possible.
En tout cas, ça promet. Omar, toi qui es vêtu d'un t-shirt bleu comme la couleur des bleus en tout cas, comment tu le sens? Est-ce que tu penses que demain, déjà face au Sénégal, est-ce que tu penses que la France vont le faire? Et est-ce que tu penses que les choix en tout cas pour l'instant et les choix pour l'instant apportés en tout cas sont les bons?
Les choix, non, pas forcément, parce que moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans l'analyse, je suis un petit peu Maxence, c'est que dans le sens où moi, je pense que Mbappé en 9, c'est pas une très bonne idée dans le sens où il manque de la présence dans la surface. Moi, c'est ça qui m'inquiète plus que tout. Parce que comme Maxence l'a dit, en fait, il aime bien décrocher. Et du coup, je sais pas pourquoi je vois pas Dembélé se projeter ou faire le surnombre dans la surface. Pareil pour Olise ou Désiré Doué qui, eux, seront sur le côté. Après, à titre personnel, je pense que la France va le faire. Ce sera pas un gros score, mais en fait je pense que devant, et on l'a vu contre la Côte d'Ivoire, quand ils veulent vraiment mettre le pied ou vraiment mettre l'accélérateur, il y a peu d'équipes qui peuvent rivaliser avec l'équipe de France, hein. Je mets peut-être le Portugal et l'Espagne, mais je vois pas qui d'autre équipe peut arrêter cette vague offensive. Donc je pense que ça va le faire. Mais attention aux transitions et attention, on va dire, à ne pas trop surcharger le centre du terrain avec les décrochages de Dembélé et de Mbappé pendant le match.
Avec en plus Olise et Doué qui rentrent dans l'axe. Donc en fait, toutes les tes quatre offensifs, ils ont la même zone préférentielle qu'est la zone entre dans le demi-espace entre le côté et le numéro 10. Donc ça me paraît compliqué.
Puis souvenez-vous, tiens, juste pour dire, souvenez-vous des deux matchs que l'équipe de France avait fait, deux matchs de préparation aux États-Unis. Le premier, c'était contre le Brésil, je crois. Ouais.
Et Colombie.
Et le deuxième, contre la Colombie. Contre la Colombie, avec Itiquet, je crois, il me semble, en pointe. On avait fait quoi, 3-0 sur ce match. On a eu une partition parfaite sur
le plan
offensif.
Qui courait comme un chien défensivement en plus.
Et Kitiki était très très fort en termes de retour défensif, tout en étant hyper dangereux face à la cage adverse. Eh bien, moi, c'est ce que je regrette en fait, qu'on a les solutions qui sont en face de nous, mais on les mettra pas en place parce que il faut préserver des noms,
des
postes.
C'est aussi facile à dire à notre place là sur cette chaise. Demain, t'es sélectionneur de l'équipe de France, je peux comprendre que ce soit très 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 difficile d'arriver dans le vestiaire, de dire Kylian, ça sera sur le banc, toi t'es numéro 16. Ousmane, toi t'es numéro 12, tu rentreras peut-être à 70e, va t'échauffer. Je me dis, si personne le fait, ils sont pas plus cons que les autres.
Le problème reste le même. Si tu compares avec le mode de fonctionnement de Luis Enrique au PSG, lui, il a réussi à concerner l'intégralité du groupe.
Mais c'est pas les mêmes égos. C'est le même problème. Oui. Faire le choix entre Vinicius, Mbappé, c'est dur. C'est que là, les mecs, ils te mettent c'est plus un poison, là. Puissance 10 000, on se rend même pas compte. Demain, Mbappé qui démarre sur le banc, mais la France s'arrête de tourner pendant 48 heures, en fait.
Tout à fait. Et c'est un énorme problème.
Et si tu perds en huitième ou en quart en ayant mis Mbappé sur le banc ou Dembélé sur le banc, mais c'est terminé. Ah, tout ton héritage équipe de France, Deschamps, etc., on va te jeter des pierres. Donc, c'est catastrophique.
Après, Deschamps, il n'a plus rien à perdre, en vrai, de vrai. Il ne sera plus entraîneur après.
Non plus dire qu'il faut caviarder les chances de l'équipe de France en Coupe du Monde.
En fait, il fait plaisir au peuple en disant « je mets tout le monde ». Si je perds, on ne pourra pas dire que je n'ai pas mis les joueurs. Je les ai tous mis, Dembélé, Mbappé, Olise, ils sont tous là. Vous les avez. Il ne fait pas le choix difficile. Mais le choix est
difficile. Donc, ça veut dire que Cherki a moins la cote en France, c'est plus ça.
Je pense qu'il a aussi moins de renommée pour l'instant, tu vois.
Cherki, il n'est pas beaucoup aimé, moi, je trouve, en France, de la part des journalistes, notamment.
Oui, et puis il n'a pas le même statut aussi pour l'instant, tout simplement. Dembélé, c'est un ballon d'or. Mbappé, c'est la superstar du foot aujourd'hui. Olise, c'est peut-être le joueur qui va coûter le plus cher de l'histoire cet été.
C'est peut-être un superstar numéro 2, même.
C'est ça. Donc, en fait, et Doué, il joue au PSG. De quel côté français? Il a gagné avec des champions, il a marqué un double en finale, etc. Ce que Cherki n'a pas encore comme renommée, c'est un joueur de Lyon qui a joué à City mais qui n'est pas encore titulaire indiscutable, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, même si son profil est très 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 intéressant.
Franchement, même ce que je me dis, à l'avenir même, ce sera compliqué pour le prochain sélectionneur.
Totalement.
Il y a Kroupi aussi qui pousse.
Mais un mec comme Zidane, lui, c'est peut-être le seul qui a la carte pour dire quoi que je fasse, me critiquer pas. Et je pense que c'est peut-être le seul qui peut faire quelque chose. Mais lui, c'est aussi le roi des égos, donc à mon avis, il suivra la meute.
Il suivra la meute sans prendre de risques, à mon
exactement.
Sens. Exactement comme ce qu'il a fait au Real.
Et ça a marché.
Oui,
mais le Real, c'était l'équipe de Cristiano. On savait que c'était Bale, etc. Ils étaient au service. Benzema, ils étaient au service. Là, aujourd'hui, personne n'est au service de personne parce qu'ils sont tous en disant c'est peut-être mon équipe. Olise, là, il est en capacité de se dire ça peut devenir mon équipe cette histoire parce que triplé, etc. Dembélé, logiquement, il peut penser que c'est son équipe. Et Mbappé, historiquement, c'est son équipe.
Et encore une fois, faut revenir à zéro, à savoir concevoir une équipe autour d'un joueur, vraiment définir le joueur. Et après, tu fais ton équipe autour.
Exactement.
Qu'on a toujours pas réussi à faire, que ce soit du côté du Real avec Mbappé ou encore de l'équipe de France. Parce que là, l'équipe de France, les problèmes de riches, on parle de problèmes de riches comme étant la petite phrase un peu drôle parce que regardez l'attaque de folie qu'on a, mais ça risque d'être un vrai problème.
En tout cas, ça n'en finit pas. Et on y reviendra en tout cas demain, messieurs. Le rendez-vous est donné, messieurs et mesdames, bien sûr. On va poursuivre, messieurs.
Norvège ou Nouvelle-Zélande?
Irak-Norvège.
C'est Iran-Nouvelle-Zélande cette nuit et Irak-Norvège l'année prochaine.
Waouh!
Là, c'est un premier gros rendez-vous pour la Norvège. Ils doivent gagner, absolument. C'est leur match facile. Ils doivent même gagner avec un écart s'assurer la place de meilleur troisième au pire. Et puis après, jouer contre la France et le Sénégal pour gratter quelque chose. Mais demain, c'est victoire obligatoire pour la Norvège.
L'Irak, ils ont tenu en échec l'Espagne juste avant le match. Est-ce que vous pensez.
Tout autre résultat qu'une victoire pour la Norvège, ça les compliquerait vraiment pour la qualif.
Je crois que c'est fini, après.
Ah ouais, carrément.
C'est fini.
Ah mais donc vous, pour vous, c'est
attention, quoi. Attention, attention.
Non mais en fait, pour vous, c'est quoi le groupe? Dites-nous directement.
Je veux dire que si la Norvège ne va pas gagner contre...
Pour vous, le Sénégal, ça bat la Norvège?
Pour moi,
ça demande à être de regarder d'abord.
Ça se regarde.
J'attends de le voir. Le Sénégal, même contre la France demain, on dit le Sénégal, faut pas les prendre de haut, etc. Mais personne les prend de haut. En fait, c'est plus comme en 2002 où en 2002 tu disais Sénégal, vas-y, ça va faire 3-0 machin. Aujourd'hui, tout le monde sait. Il y a pas un joueur d'équipe de France qui va te dire le Sénégal, ça va être facile, on va voir comme c'est l'Irak. Non, le Sénégal, tout le monde les attend. Donc ils ont même pas le côté petit pousset, on va voir ce que ça donne. Tout le monde les attend. C'est champion d'Afrique, on le sait. C'est la meilleure équipe africaine, on le sait. Donc en fait, ils ont pas ce côté on verra. Et là, doivent assumer aussi une pression de maintenant une grosse équipe, un peu comme le Maroc l'a fait contre le Brésil. Maintenant une grosse équipe, ça joue à 50-50. Et même contre la Norvège, on est favori et on doit gagner. Et ça va être dur à assimiler peut-être parce que le Sénégal, jusque-là en Coupe du Monde, c'était plus on va voir ce que ça donne, on va essayer de passer si c'est possible, les petits poussets, etc. Là maintenant, c'est plus les petits poussets et il faut qu'ils montrent.
Et ils ont des arguments. En fait, les deux équipes ont des arguments pour battre l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être le match de la poule, au-delà du fait qu'il y ait la France dedans, mais c'est vraiment le match de la poule parce que d'un côté, on a la Norvège avec Haaland, bien sûr, certes, mais aussi avec avec Sorloth, avec Odegaard,
une équipe qui physiquement est plus que prête.
Oh oui, faut se les coltiner, hein, les Norvégiens sur le plan physique. En face, t'as le Sénégal avec Sadio Mané, certes, mais tu as aussi qu'est-ce qu'on pourrait citer du côté du Sénégal,
Koulibaly,
les Camara,
les deux gars au milieu aussi,
Diouf même dans la défense,
aussi, donc
Edouard Mendy dans les buts.
C'est quand même extrêmement solide. Honnêtement, c'est le seul
après,
match impossible.
Sarr qui fait une excellente saison.
Non, pour moi, c'est un match 60-40 Sénégal.
Qui sera pour le côté plus charbon. Tu
connais son registre. C'est pas mon préféré, mais. Oui, non, mais il sera là pour ça. Bien sûr, bien sûr.
Il sera là pour gratter les ballons, pour libérer les autres.
Et encore, tu dis 60-40 Sénégal. Moi, je dirais même 55-45 pour le Sénégal. Tellement ça va.
Je te l'accorde.
S'il y a 0-0, c'est le meilleur résultat, carrément. Parce que ce sont deux équipes qui se valent, qui ont énormément d'atouts à montrer et qui potentiellement peuvent se neutraliser.
Mais moi, du coup, pour les deux, pour Sénégal et Norvège, c'est victoire obligatoire contre l'Irak.
Ah oui,
pour au moins s'assurer la troisième place et passer en 16.
Et accessoirement, soigner le goal average.
Oui,
si,
en plus.
S'ils le peuvent.
Ok, merci, monsieur. Maza qui a déclaré nous allons battre Messi. Omar.
Bon courage.
Est-ce que tu penses que l'Algérie peut battre l'équipe de Lionel Messi?
Moi, en tout cas, je pense que l'Argentine est surcotée. Après, je ne les vois pas perdre contre l'Algérie, mais moi, l'Argentine, ce mondial, je les sens pas. Je trouve qu'ils sont passés entre les gouttes en prenant des matchs amicaux faciles contre la Zambie, contre la Mauritanie, pour ne pas se mettre trop en difficulté. Mais je ne les vois pas.
Ouais, mais l'Algérie, c'est catastrophique aussi. Hein.
Ouais, l'Algérie aussi. Est-ce que la victoire face aux Pays-Bas, ça ne va pas les galvaniser? Donc, c'est ça que je me pose, même si dans le contenu, c'était vraiment pauvre. Ils ont été sauvés par un très bon Zidane au cage. Mais je vois pas, personnellement, je vois pas l'Algérie battre l'Argentine. Mais l'Argentine, moi, c'est pas...
Ils ont
pas...
raison d'y croire.
Ouais, ils ont des raisons d'y croire. Mais c'est pas l'épouvantail qu'on nous vend, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois.
Non, moi non plus. Vas-y.
Non, vas-y.
Non, je les vois pas non plus en épouvantail. Mais dans la poule, ils vont se balader tranquille, je pense.
Bien sûr.
Ça va le faire. Et même, j'irai plus loin, l'Algérie, pour moi, ça doit jouer à la troisième place contre la Jordanie. Parce que pour moi, l'Autriche, c'est meilleur que l'Algérie.
Ah
donc,
oui.
L'Autriche,
pour vous, c'est meilleur.
Pour moi, l'Autriche, c'est meilleur que l'Algérie. On en reparlera, mais pour moi, l'Autriche, c'est meilleur. C'est une équipe qui est fiable, qui a l'habitude d'enchaîner les euros, qui connaît ces niveaux-là. Et c'est une équipe qui a pas de trou, qui a pas de faille. Donc pour moi, si l'Algérie est meilleure troisième, c'est déjà très très bien.
Ouais, moi je te rejoins totalement sur le sujet concernant l'Autriche, puisque l'Algérie, le problème de l'Algérie, c'est qu'on est sur une équipe qui est vachement irrégulière. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais la mayonnaise ne prend toujours pas dans les compétitions officielles. Et c'est là en fait où ça peut être compliqué dans cette poule. Il faut assurer un maximum de points, marquer un maximum de buts face à la Jordanie, c'est vrai, mais contre l'Autriche, c'est pas fait, hein. C'est vraiment pas fait. Même contre l'Argentine, s'ils arrivent à tenir le match nul, ça peut valoir son pesant d'or. Ça peut valoir office d'exploit, mais je vois pas.
Puis on se souvient.
Excusez-moi, mais pour vous là, ça peut pas être la compétition référence de l'Algérie. Moi, comment je vois l'Algérie, franchement, moi tu me dis Algérie Autriche, moi je trouve l'Algérie ils sont favoris quand même.
Moi
face
je suis pas
à
d'accord.
L'Autriche. Moi quand je vois d'accord. L'Algérie avec les joueurs et les qualités qu'ils ont, franchement un peu à tous les postes avec la nouvelle génération qui arrive aussi qui sont en plein essor.
Moi, le quart de finale de la CAN m'a fait mal à la tête. C'est quand ils ont pris de l'impact et du rythme, en fait, c'est une équipe de sénateurs. C'est une équipe de joueurs de ballon, Oussem Aouar, Mahrez, on se fait des petites passes, c'est marrant. Ah, techniquement, c'est propre, ils font les transversales, c'est cool. Mais en fait, là, c'est l'impact, en fait. C'est la Coupe du Monde. Là, c'est le rythme, ça va à l'élite. En face, tu vas avoir des Sabitzer, des Leimer, des mecs de Bundesliga qu'on connaît pas trop, des mecs de Bundesliga qui vont mettre de l'impact, qui vont t'envoyer et qui vont courir pendant 90 minutes partout.
Et qui ont l'expérience en Coupe du Monde.
Et l'Algérie, tu vas avoir du Bentaleb, du Oussem Aouar qui se font des petites passes, des joueurs de statut, Mahrez qui va jouer en haut à droite à la place d'Adj Moussa alors qu'Adj Moussa est meilleur. Et tout ce petit truc là, le fait d'avoir prolongé Petkovic avant la compétition, pour moi c'est une énorme erreur encore. Ça n'existe pas. Le mec il a fait une CAN qui est très moyenne. Et là tu le prolonges, mais de quel droit? S'il fait 0 points, tu fais quoi? T'as son contrat pendant 4 ans encore.
Le vire direct.
Ouais, donc
moi je pense que c'est juste une confiance pour renouveler la confiance. Un peu ce que le Brésil font avec Carlo Ancelotti parce qu'il a rien joué encore.
Bien sûr.
Lui renouve son contrat juste avant le truc. C'est vraiment, je pense, pour dire voilà, on t'accorde la confiance et on veut que voilà,
mais pour moi, c'est un mauvais choix.
C'est un mauvais choix. Mais je te rejoins totalement. C'est un mauvais choix parce que si tu vois, on parle du Brésil avec Carlo Ancelotti. Mais le Brésil, la différence avec Carlo Ancelotti, c'est que Ancelotti, il a pas de vivier pour le moment. Il n'a pas de vivier national pour pouvoir se dire « Tiens, je vais construire mon équipe pour telle ou telle compétition, dans telle ou telle échéance. » Il n'a pas ce vivier-là. L'Algérie a ce vivier-là, mais il est guidé par un coach qui n'est pas au niveau. Je suis désolé, Petkovic, il n'est pas au niveau. C'est comme si tu confiais les clés d'une Ferrari à un Kudjat. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, confier... quand tu regardes, oui, il y a des noms très intéressants au niveau de la jeunesse algérienne. Je pense, on parle d'Ibrahim Maza en tête, mais je suis désolé, dans ce contexte-là, où c'est très irrégulier, mais face à une équipe contre l'Autriche, qui est une équipe qui a du métier, mais je vois mal l'Algérie s'en sortir.
Et je suis en train de regarder la compo autrichienne, c'est que de la Bundesliga. En plus, oui. T'as du Kevin Danso, Tottenham, t'as du Chouko Meka, t'as du Alaba qui est là encore, Arnautovic qui est là encore, mais Schlager au milieu, Seywald, des mecs de Leipzig, Leimer Sabitzer sur le côté, c'est Gregoric, Schmidt, c'est que des joueurs qui connaissent toutes ces joutes-là. En fait. Oui. Et je trouve que l'Algérie, tu vas avec un gardien de D2, tu vas avec une défense qui est quand même très moyenne. Enfin, je suis désolé, Ben Sebaini, Mandi, ça me fait pas rêver.
Tu y vas avec un ballon d'or qu'on nous survend depuis 2019, alors qu'aujourd'hui, la 35 piges, merci pour les travaux, Mahrez. C'est bon quoi.
Non, voilà, après, je demande qu'à me tromper, hein, mais pour moi, 3ème, ce serait bien pour l'Algérie. Il faut signer.
Pareil, c'est 3ème, c'est très bien pour eux, c'est leur place pour moi. Ça va pas plus haut. Et ce sera très bien pour eux.
Je vous trouve très dur quand même avec l'Algérie.
On en reparlera dans 15 jours.
Nos amis algériens, nos DZ ne vont pas être contents. En tout cas, moi je ne suis pas mêlé. Voilà.
Mais, c'est bien, tu te sauves toi. C'est bien.
Mais on verra. En tout cas, franchement, j'espère qu'ils feront quand même une belle Coupe du Monde. Mais en tout cas, ça promet en tout cas.
Mais là, pour le coup, c'est un groupe excitant. Pour une fois, on a un groupe équilibré où on se dit, ah, qu'est-ce qui va se passer. Il y en a qui pensent que l'Algérie est meilleure, il y en a qui pensent que l'Autriche, il y en a qui pensent que voilà, donc c'est intéressant.
Et puis toujours en tête avec l'Argentine. Bon, l'Argentine qui a deux mondes au-dessus de tout le monde. Mais même avec ça, il peut se passer des choses.
Oui, comme on l'a vu en 2022.
Moi, franchement, je partage l'avis de Omar hein, quand on me dit que l'Argentine est surcotée. L'Argentine est vraiment surcotée.
Oui, mais pas dans cette poule.
Quand je vois les matchs de l'Argentine.
Pas dans cette poule.
Mais tu vois vraiment la Jordanie accrocher l'Argentine.
Non, mais je vois bien l'Autriche accrocher.
Oui, ça.
Je
vois bien l'Algérie aussi accrocher l'Argentine.
Pour moi, mais ils sortiront de la poule l'Argentine. Il y a pas un monde où ils sortent pas.
Bah oui. Parce qu'avec 3 points,
c'est pour ça.
Oui.
Avec 3 points, tu sors.
Mais pour moi, ils auront au moins 5-6 points.
Mais oui.
Minimum.
En tout cas, je suis pas si sûr.
L'Autriche, je les vois bien éventuellement, mais sinon Jordanie, Algérie, ça gagne tranquille.
Ok, messieurs. On va poursuivre, hein, Portugal-Congo.
Le président congolais est parti voir Nuno Mendes et Gonzalo Ramos. Il a dit, vous allez gagner la Coupe du Monde, mais vous allez perdre contre la RDC. ça promet déjà.
En tout cas, j'ai hâte.
Le barrage de la RDC contre la Jamaïque m'avait fait mal à la tête. Niveau, il était trop catastrophique. Donc, je pense malheureusement que le Portugal va se balader. Je pense que la RDC va mettre un petit peu normal. Ils vont être agressifs, ils vont être motivés, etc. Mais techniquement, pour moi, il y a 3 classes d'écart entre ces deux équipes-là. Le contrôle du milieu, il va être portugais à 200%. Ça va être une attaque défense. Donc derrière, ça va être fort dans les duels, etc. Mais à mon avis, dès que le premier but il va être mis, ça peut être un peu avalanche. Et le reste de ce groupe est pas facile. C'est Colombie et c'est Ouzbékistan. Ouais. Bah pour moi le
et l'Ouzbékistan,
attention. L'Ouzbékistan, attention.
Ils sont de bons joueurs, de bons jeunes joueurs.
Ils ont des équipes de jeunes qui sont très fortes aussi. Oui, au JO notamment, ils avaient fait quart de finale. Qui sont menés par Kusanov derrière, etc. La RDC,
c'est pas fait. Hein.
Troisième, ce serait bien.
Troisième, ce serait bien. C'est comme
je le redis, mais troisième, ce serait bien.
Avec tout le respect que je dois à la RDC, est-ce qu'ils peuvent me citer un joueur qui peut s'asseoir sur le banc du Portugal? Un seul.
Un joueur qui peut s'asseoir sur le
banc du Portugal, je suis vraiment pas sûr.
Il y en a pas un seul,
je crois.
Je pense à Bakambu, mais.
Bakambu,
de toute façon, c'est le seul qui sort un peu.
Non, au milieu.
Au milieu,
j'en sais rien.
Non,
au milieu, c'est vraiment rien.
Non, sur le banc. Non, on a dit sur le banc. S'asseoir sur le banc, c'est ça la question.
Sur le banc, oui, sur le banc des tribunes, oui, bien sûr.
Avec tout le respect.
Excusez-moi, mais moi je pense que Bakambu, moi je préfère Bakambu à Gonzalo Ramos.
Non, tout abuse.
On va pas être d'accord. Le Gonzalo Time,
on va continuer. Moi, quand je vois le match de Gonzalo Ramos avec le Portugal, les caviars qui lui sont donnés et qui ne finit pas, c'est aberrant.
Ouais, enfin, Bakambu, il est spécialiste dans l'exercice aussi.
Bakambu, il sait faire un match.
C'est quelqu'un, il peut sortir un petit truc.
Il sait manger aussi. Il sait beaucoup manger. Est-ce que Sadiki, il est pas meilleur que un Ruben Neves?
Non.
Non.
Non, 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 oublie. Non,
non, un Samu Costa.
Non, non, laissons tomber.
J'essaie de chercher, moi.
Il reste 10 petites minutes, 8 petites minutes même. En tout cas, ça va être ça. Angleterre-Croatie.
Là, c'est intéressant. Moi, les Anglais, je les vois très, très forts.
Ouais,
parce que pour une fois, on n'en parle pas. Alors que d'habitude, ils sont toujours cités, ils n'arrivent pas à assumer. Là, Tuchel, il a fait. Lui, pour le coup, oui, on parlait de choix fort. Lui, les choix, il les a fait. Disant Palmer, mon équipe, c'est l'équipe d'Harry Kane, de Bellingham, les autres dehors.
Ouais.
Et ça, c'est très bien. Et on ne parle pas d'eux. Ils sont dans leur coin, ils font leur truc. Pour moi, l'Angleterre va être très dure à sortir. Et pour moi, ils sont dans le top 2-3 favoris de ce mondial.
Ah ouais, je suis d'accord.
Moi, je les mets tout
en
Angleterre. Demain, il y a Angleterre-France. Ouais, attention,
je mets pas la France.
Moi,
je mets la
France. Demain, Angleterre, Brésil, Angleterre, Argentine, je mets l'Angleterre. Angleterre-Portugal, je mets l'Angleterre. Je les mets partout, l'Angleterre.
Angleterre face au Portugal, je mets pas dedans.
Et Portugal derrière, c'est moyen. Ouais. Devant, attention. Oh. Moi, j'étais au stade pour le match du Portugal de préparation, là, contre le Chili.
Ouais.
Franchement, le Portugal, les gars. Ah non, c'est le milieu, oui. Le milieu, c'est exceptionnel, etc.
Ah non, mais j'arrive même pas à citer
la charnière, mon Dieu. Ruben Dias, il fait une saison, c'est horrible. Devant Cristiano,
mais
déjà, avec tout le respect.
Bah oui, non, mais
c'est Cristiano, compliqué. Sur les côtés, Raphaël Léao, c'est nul. C'est nul. Pour moi, l'Angleterre, c'est beaucoup plus complet, en fait. C'est beaucoup plus collectif. Et ils ont un coach.
Il manque Maguire.
Et ils ont un coach qui est exceptionnel. Tourelle.
Ils ont pas pris Maguire.
Bah oui, c'est pour ça. Ils ont pas pris Maguire. Tourelle,
c'est un vrai coach, contrairement à Roberto Martinez. Tourelle, c'est le step du dessus.
Ça,
et Tuchel, moi, je fais confiance sur une mission comme ça.
Ah, je sais pas. Ah, moi, je sais pas. Honnêtement, c'est tellement vert.
Il sait faire. Il l'a fait avec Chelsea en Ligue des Champions. Il sait faire les missions commando. Ils adorent. Et en plus, il a du talent. Parce que Bellingham, Kane, il a du Rice au milieu. En fait, leur colonne vertébrale, elle est exceptionnelle. Il manque peut-être un gardien top niveau. Ouais, mais sinon, c'est exceptionnel.
C'est vrai que Pickford.
Il
n'a pas de concurrence. C'est pour ça qu'il se laisse aller.
Mais s'ils avaient un Maignan ou un truc comme ça, ce serait la folie.
En tout cas, voilà. Mais donc, du coup, mais moi, la Croatie, franchement, elle est loin quand même, la Croatie de 2018. Hein.
Après, c'est les mêmes joueurs, mais ils ont 8 ans de plus, les pauvres. Donc, ils ont tous 36, 40 ans.
Perisic, Modric.
Modric, bordel.
Ça suffira pour sortir, mais après, oui, en 16e, 8e, ça prendra la porte.
Non, mais ouais, je pense que eux aussi. C'est vrai que je me suis dit, putain, quand même, 8 ans après, ils sont toujours là.
Mais après, c'est Dieu vivant, parce qu'un tout petit pays comme ça, l'amener en finale de Coupe du Monde, c'est ça fou, vaut tous les exploits de la Terre, en fait. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et pour ça, il faut les respecter à vie.
Couronné par Modric Ballon d'Or.
Ouais, bien sûr.
Ah ouais,
mais
c'est quelque chose.
Je crois que la Croatie, je me demande si c'est pas la population de l'île de France.
Pour
le pays de la Croatie en termes de population.
En termes de population,
ce serait comme si.
En tout cas, là, le plus petit pays, c'est Curaçao.
Oui. Je disais que Curaçao, c'est les populations de Divry-sur-Seine à côté.
C'est la folie.
C'est 100 000 habitants, un peu plus.
Mais quand même, faut.
158 000 d'après Jeannot Récit.
Ouais, voilà. Non, mais il faut quand même saluer l'exploit.
C'est un exploit extraordinaire, la Croatie en finale de Coupe du Monde.
Le retour, excusez-moi, messieurs, on poursuit parce qu'on arrive à la fin. Le petit retour des Black Stars Ghana. Face au Panama.
Le Ghana tous les jours.
Ghana victoire obligatoire.
Ah, bien sûr, le Ghana tous les jours.
Ah, ils sont pas sur une belle série par contre.
Ouais, mais le Panama.
Panama, je suis désolé, c'est un exploit qui soit, c'est du même niveau que Curaçao. Hein.
C'est un peu meilleur quand même, je pense.
Ouais,
parce qu'ils ont fait les Coupes du Monde déjà.
Ouais.
Mais oui, non, mais normalement c'est plus 3. Hein.
C'est plus 3 buts minimum pour le Ghana.
Ils ont battu l'Afrique du Sud il y a pas longtemps, 27 mars. Bon, contre le Brésil, ils ont pris 6-2, mais...
c'était démoli ton argent.
Contre la Bosnie, 1-1, tu perds 1-0 contre le Mexique.
Oui, allez.
Non, non, je pense que c'est moins nul que Curaçao, mais...
Je force avec Curaçao, mais là, le Ghana, c'est censé être largement au-dessus.
Quand tu vois comment c'est dur, les qualifications en Afrique, si tu te tapes pendant 2 ans là, pour se qualifier, et qu'au final, t'arrives et tu perds contre le Panama, mais faut arrêter.
C'est dur, bien sûr. Bref, cela dit, Thomas Partey, il est pas là. Hein. Il reste aux États-Unis.
Oui, il reste aux États-Unis.
Ouais. Ça peut, entre guillemets, contrarier les plans... Bon, ok, au lieu d'en mettre 4, ils en mettront 3, mais quand même.
Parce que aux États-Unis, t'as pas le droit d'entrer si t'es ivoirien ou congolais, mais par contre, si t'es mis en examen pour viol, tu peux rentrer.
Ouais, c'est
bien résumé.
C'est bien résumé.
Une petite faute sur.
Voilà, exactement. Ça passe.
Ouais. Allez.
En tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup parlé, hein, mais on aurait pu faire aussi un point sur tout, tout à fait. Ce qui s'y passe. Hein.
Bien sûr, on aura le temps peut-être dans la semaine, enfin, ouais, ou dans les prochaines semaines.
Oui,
mais
sûrement,
c'est...
on aura le temps. Honte, ouais, on prendra le temps lundi prochain avec un gros dossier.
Avec plaisir.
On prendra le temps. Je voulais faire un point très rapide sur le mercato. Hein, vous savez, mm-hmm. hein, le mercato, Cucurella. Ça me tient à cœur. Hein. Le Real Madrid, Cucurella, qui font l'affaire Cucurella. C'était soit Calafiori. Cucurella n'était pas cité d'ailleurs. C'était soit Calafiori, soit Gvardiol. Et finalement, le choix s'est porté sur Cucurella, lui qui a été formé à la Masia.
Ouais, mmh. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Retour à la maison, mais.
Non, non, pas à la maison.
Pas à la maison, non. Ah, la Masia, pardon. Non, non, je disais retour à la maison en Espagne.
Ouais.
J'avais pas fini ma phrase. Non, plus sérieusement, ce que le Real est en train de mettre en place en termes de défense, c'est une association de malfaiteurs, en fait.
Ah ouais.
On a Cucurella qui est le mec le plus. Ben, je peux pas le dire à l'antenne parce que il faut être poli, mais c'est
détestable.
Le mec le plus détestable, exactement, c'est le mec le plus détestable en Europe.
Mais il fallait un mec comme ça au Real parce que Carvajal il s'en va.
Ils en ont quatre. Le problème c'est qu'ils en ont quatre comme ça. Ah, je veux dire, Rudiger il est détestable aussi. Tu as, il y a Konaté qui vient d'arriver.
Lui pas détestable.
Non, il est pas détestable, mais c'est la manière de l'avoir récupéré qui est détestable.
Oui, après ça c'est.
Ah, bah, ça c'est les clubs qui gèrent mal après.
Non. Ah non non, ça là-dessus je suis désolé, c'est pas les clubs qui gèrent mal, c'est le Real Madrid qui rentre dans la tête du joueur de façon à ce qu'il puisse partir à la fin de son contrat et être récupéré libre.
Non,
ça a déjà été fait,
non,
avec Trent Alexander-Arnold.
Ouais, non, mais pas
même avec Liverpool,
pas
c'est
moi, mais... pour moi t'as de tels joueurs, t'es obligé de les blinder un an avant, soit tu y prolonges, soit au revoir.
Oui,
il y a pas de, les négociations ne doivent pas continuer comme ça. Là ils disent au revoir à combien de millions d'euros? Konaté aujourd'hui tu le vends 70-80,
ouais,
facile.
Bah oui, mais justement,
non, mais facile. Bah alors non, faut pas parler de la tête des joueurs, etc. C'est un club,
parce que ça compte, parce que ça a déjà été fait à Liverpool. Trent Alexander-Arnold, oui. C'est comme
c'est
ça
la même
arrivé.
Chose. Mais comment tu laisses des joueurs comme ça arriver à terme de leur contrat?
Après, je pense
c'est
qu'il y a aussi,
gestion.
Il y a aussi une question où les joueurs refusent de signer à un an.
Ouais.
Bien sûr.
En disant, ouais, ah, moi, je veux pas être transféré.
Mais, bah, bien oui. sûr, mais à un an. Mais normalement, les négociations doivent commencer avant.
Oui, oui.
Même à un an, ça devient très compliqué.
Même
ou à un an, c'est, tu ne veux pas prolonger. On te vend obligatoirement.
Oui, mais si le joueur ne veut, moi, je te parle de ça. Le joueur ne veut pas signer à un an.
Bah oui.
Moi, demain, je suis joueur. T'es mon président. Tu me dis, bah vas-y, t'es un an ton contrat, on te vend. Je dis non, moi je signe pas.
Ouais, moi je signe pas. Je vais au bout de mon contrat.
Oui. Je vais au bout. Oui. C'est ce qui s'est passé avec Trent.
C'est ce qui s'est passé avec Mbappé, c'est encore pire.
C'est ça,
oui, mais il y a des choses, tu les vois à venir. Non,
non, non.
Attends, avec Mbappé, attends, non, mais faut
non,
arrêter.
Non, non, non.
Je pense qu'on va pas, on va faire toute l'histoire de façon, ouais. Il nous reste 2-3 minutes.
Non, non, mais
faut arrêter. C'est de la gestion catastrophique du côté du Paris Saint-Germain.
Oui, oui, oui.
La gestion est catastrophique. On ne propose plus de 220 millions. Tu dois les accepter pour n'importe quel joueur. Un joueur qui dit j'ai envie de partir.
Ah, ça, je suis d'accord.
Un joueur qui dit j'ai envie de partir. Un joueur qui te dit j'ai envie de partir. Je pars. J'ai envie de partir cet été, président. Vendez-moi, s'il vous plaît, parce que quand je suis arrivé, vous m'avez dit que vous allez me laisser partir quand j'en ai envie. Là, je vous dis que j'ai envie de partir. Il y a le Chéquier qui est là. J'ai envie de partir dans ce club-là. Il y a le Chéquier qui est là. Pourquoi on n'accepte pas?
Bah oui. Ça après.
Un
ça,
joueur
c'est
comme ça, tu le laisses
ça,
partir.
Ça pour le joueur, il a envie de partir.
Oui. Bah oui. Et après, tu le laisses pas. Après, gratuitement, il part et tu te dis mais c'est le. Mais, faut
oui.
Arrêter de
sur vous. Le Mbappé, c'est très.
Les gestions. Et pour moi, il y a des clubs. Demain, t'as des trucs. Tu vois, par exemple, on voit, il y a des clubs, ils font très bien. Le joueur, il reste 2 ans de contrat. C'est un gros joueur, il sait qu'il va nous rapporter de l'argent. Soit tu prolonges, soit on décide tout de suite si tu pars ou pas.
Oui, voilà.
Voilà, ça se fait comme ça.
Ça se fait comme
voilà,
ça.
Voilà, ça se fait comme ça.
Le problème,
si tu gères pas ça comme ça, le parce que t'as mal géré.
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a aussi le fait de voir le Real se renforcer pour 0€ et un peu de prime à la signature.
Mais
ça, là-dessus.
D'accord,
c'est,
mais ça, c'est la gestion du club.
Non, c'est pas que la gestion du club. Parce que quand tu commences les négociations avec ton joueur un an avant la fin de son contrat, allez, c'était même 18 mois avec Trent Alexander-Arnold, ça commençait déjà à faire des tractations dans tous les sens, en soum-soum, peut-être même sans demander l'autorisation à Liverpool pour allez vas-y,
c'est ce qui se fait partout,
non justement le Real est spécialiste là-dessus,
on va terminer
non,
le débat de façon
après,
Omar s'il te plaît, on va juste on va avoir le débat en off, on va débattre, mais là il nous reste 2 petites minutes, je voulais faire un petit quiz de 2-3 questions pour terminer,
vas-y.
Du coup on va juste poursuivre avec ça. Daniel s'il te plaît, c'est quand tu veux. Yep. Quel est le premier buteur de cette Coupe du Monde? Je veux le nom et le prénom.
Oh, putain.
Quignonès.
Mais oui.
Et.
Je
sais
pas son prénom.
Je l'ai pas, moi je sais juste qu'il était.
C'est Quignonès, mais.
C'est un J, non? Ça commence par un J.
Exactement. Tu vois Quignonès, non?
Non.
Javier.
Javier Quignonès, non?
Non, je sais pas.
Javier Quignonès.
Joachim.
Juan
Quignonès. Non?
Julian.
Ah, t'es pas loin. Hein.
Mais on va quand même accorder le point à Maxence qui a trouvé le nom.
Oh,
j'ai pas
au moins un demi.
C'est pour ça qu'on va accorder un point. On aurait pu accorder 2 points pour le prénom nom, mais on va accorder voilà. un Allez, point voilà. Pour le nom. Quel est le dernier buteur de cette Coupe du Monde là, à l'heure actuelle?
Isaac.
Non. Ayari.
Ayari, qui a ouvert le score
d'ailleurs,
et qui a fermé le score, lui qui était international tunisien, lui d'ailleurs qui est d'origine tunisienne et qui a refusé la sélection il n'y a pas longtemps, et là qui vient tout simplement crucifier
son pays d'origine.
Mais il s'en est excusé, du coup ça lui est à moitié pardonné. Dernière question, qui a été le buteur de Curaçao face à l'Allemagne?
Curaçao.
Comment?
Comenencia,
c'est bien lui, oui. Bien joué, Stéphane. C'était la dernière question. Ça fait que Maxence est notre petit champion de
grand
de,
même.
Grand champion.
Bah oui.
Avec deux petites questions, mais ça reste quand même.
Ouais, mais c'est comme les grands joueurs. C'est sur les finales un peu serrées, c'est là qu'il faut être là.
Ah, là, ça y est. Exactement. Ça y est, c'est son moment,
En tout cas, bravo Maxence pour ta petite victoire, pour ta grande victoire.
Merci.
Merci à Omar pour la participation. Hein. Merci à Marius. Et merci à Stéphane. Et merci à Daniel à la technique. Et on se dit à demain hein, pour du football, encore du football. Toujours du football. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Paris FM.